Bonjour à tous. Merci de vous intéresser à un autre Cervantes que celui de Don Quichotte. Et comme vous savez, avant de penser être romancier extrêmement tard dans sa vie, il a rêvé, comme tout le monde, d'être un grand auteur de théâtre. C'est pourquoi nous avons voulu vous parler de Numans, que vous pouvez bien sûr acheter comme d'habitude dans le théâtre. Et Numans, c'est... Pour quelques-uns d'entre nous, c'est toujours associé à Jean-Louis Barrault, puisque c'est lui qui l'a créé en pleine guerre d'Espagne au moment du siège de Madrid, qu'il a repris à Paris en 65, et qu'il a souvent lu à une voix dans des lieux divers, et notamment dans mon enfance, à la radio. Numans, c'est aussi une pièce qui n'a rien perdu de son actualité, puisqu'elle illustre l'histoire d'un siège. On croirait le siège une forme stratégiquement complètement dépassée depuis l'Antiquité. C'est une des plus vieilles formes que prend la guerre que celle du siège. Et on s'est aperçu qu'à l'époque contemporaine, elle avait repris une tragique actualité, qu'il s'agisse des grands sièges de la campagne de Russie dû à l'invasion par Hitler de la Russie, qu'il s'agisse beaucoup plus récemment du siège de Srebrenica, ou encore du siège de Gaza, et récemment à la frontière de l'Irak et de la Syrie. Le siège est toujours là, et on peut dire que cette pièce, c'est d'abord cela, le drame de toute une population assiégée face à l'envahisseur. Aujourd'hui, donc, il y a avec nous Jean Canavaggio, qui est bien connu de vous, que vous avez déjà vu et entendu, qui est le grand spécialiste de Cervantes, à la fois traducteur de Don Quichotte, éditeur des œuvres de Cervantes dans la Pléiade, et aussi auteur d'une passionnante biographie de ce véritable héros, le roman d'aventure, qui a été l'auteur de Numans. Et puis, Martin Juvanon du Vachat, qui nous est également très fidèle, et nous en parlerons, mais vous pouvez aller l'applaudir actuellement au Théâtre des Chargeurs, où il joue une remarquable pièce de Jean-Luc Lagarce, Les règles du savoir-vivre. Donc nous allons commencer, Jean, par te demander de nous rappeler à quel moment, comment se situe Cervantes dans l'histoire du théâtre espagnol, et ensuite, bien sûr, d'autres choses.
Je t'aurais volontiers laissé le soin de le faire parce que je t'écoutais tout à fait intéressé. Je trouvais que tu présentais parfaitement les choses. Enfin, je crois que tout de même que je joue mon rôle ici. Je croyais que ça va.
Voilà. Tu parlais plus près, en fait.
Et oui, je parlais plus près. Du coup, je ne peux plus me tourner vers mon voisin. Oui, effectivement, Cervantes, que l'on connaît surtout comme l'auteur de Don Quichotte, a été aussi un passionné de théâtre. Assister très jeune à des représentations qu'il évoque à la fin de sa vie, montées par un certain Lope de Rueda, que l'on tient pour un des pères du théâtre espagnol, mais il n'a mis, si j'ose dire, la main à la pâte que beaucoup plus tard, puisque à 20 ans, il part pour l'Italie, il entre ensuite dans les troupes de Don Juan d'Autriche qui vont se battre à Lépante, il est blessé à Lépante. Il sert toujours Don Juan pendant 3 ans, et puis quand il revient en Espagne, au moment où il aborde les côtes catalanes, il est fait prisonnier par les barbaresques, et il va passer 5 ans prisonnier à Alger. C'est donc à son retour d'Alger qu'il reprend une vie que j'appellerais normale, et qu'il se met à écrire pour le théâtre, et il évoquera plus tard les années qu'il a consacrées à cette activité, en gros entre 1580 et 1587. Et alors, au cours de cette période, le théâtre est en train de se développer en Espagne. Surtout, l'industrie du spectacle se constitue, des salles permanentes, des troupes d'acteurs professionnels. Et lui participe à cet effort à un moment où le théâtre cherche une forme de dignité qui lui manquait jusqu'alors. Et ceux qui cultivent cet art dramatique se réfère souvent à Sénèque, dont on a parlé il n'y a pas longtemps ici même, à l'occasion de la lecture de Médée. Donc cette époque qui correspond à son activité principale de dramaturge, c'est surtout le moment où il fait jouer ses pièces. Alors ensuite il part pour l'Andalousie, il mène une vie tout à fait différente. Puis on le retrouve à Valladolid, c'est là qu'il va publier Don Quichotte. Et puis sur le tard, ben, comme il a écrit dans l'intervalle de nouvelles pièces, il aimerait les faire jouer, il se tourne vers les comédiens, les comédiens lui disent, écoutez, non, vraiment, ça n'est pas ça, on peut attendre beaucoup de votre prose, hein, et pour cause, mais les vers, ça n'est pas ça. Alors, en désespoir de cause, il se dit, bon, j'ai tout de même un public de fidèles, un public de lecteurs, je vais leur donner mes pièces, et donc il fait quelque chose qui allait absolument à l'encontre de ce qui se pratiquait à l'époque, c'est-à-dire qu'au lieu de faire jouer ces pièces qui sont ensuite imprimées, c'est ce que fait Lope de Vega, son cadet et son grand rival, et bien il commence par les publier en disant, bon, peut-être que des comédiens s'intéresseront à mes œuvres, ce qui n'a pas été le cas du moins de son vivant. Donc voilà, pour fixer les choses très...
Combien de pièces à peu près a-t-il écrit?
Alors lui dit 20 à 30, bon, je pense que c'est une exagération rhétorique, il en a probablement écrit une bonne dizaine au cours de la première période de son activité, et puis on conserve 8 comédies intermèdes, parmi lesquelles d'ailleurs le Retable des Merveilles, qui est le plus connu, et qui ont été publiées en 1615.
Très bien, et alors Numance se situe à quel moment de cette carrière?
Alors Numance, bon, il est difficile de la noter précisément, on pense qu'elle se place entre 1583 et 1585, mais on a perdu le texte de cette pièce, et on ne le retrouvera qu'à la fin du XVIIIe siècle. Enfin, c'est une autre affaire dont je parlerai si vous le souhaitez.
Et donc, Cervantes n'a pas été heureux au théâtre, et il a même été éclipsé par un de ses disciples.
Un disciple, c'est peut-être...
Comme beaucoup de gens, d'ailleurs.
Oui, mais ça sent quelque chose. Bon, disons que Lope de Vega, qui avait même 20 ans de moins que lui, avait un don naturel que Cervantes n'avait pas, et puis il avait surtout le sens du spectacle, et il s'entendait parfaitement avec les comédiens. Et alors, Cervantes finira par reconnaître évidemment la suprématie de son jeune rival, mais il lui rendra hommage dans des termes toujours assez ambigus. Car oui, il a écrit énormément de pièces, et presque toutes ont été pleines de qualités. Il y en a tout de même qui auraient pu être un peu mieux si il avait été un peu plus exigeant vis-à-vis de son public. Voilà. Donc, une relation assez ambiguë.
Comme les auteurs classiques français, plus tard, ils s'inspirent de l'histoire romaine, n'est-ce pas?
Alors, il s'inspire de l'histoire romaine, il n'est pas le seul d'ailleurs, puisque ses contemporains, dont je ne rappellerai pas les noms ici parce qu'ils intéressent essentiellement les spécialistes, donc il s'inspire de l'histoire romaine et en particulier d'un épisode historique qui est le siège et de Numance par les Romains et le suicide des défenseurs de la ville.
Il y a une source historique qui nous est parvenue.
Il y a livre, alors non pas de livre, mais d'abord des historiens grecs, Appien, puis Florus, historien latin, et puis un chroniqueur espagnol qui reprend ses sources et qui les retravaille dans ce qu'on appelle la chronique générale de l'Espagne. Ce chroniqueur s'appelle Ambrose de Morales. Il publie sa chronique, je crois, en 1572. Si je me trompe, vous me corrigerez. Quand on compare, si vous voulez, le détail des actions et des scènes de Numance avec le récit de Morales, on s'aperçoit qu'il a très largement puisé dans le récit de Morales. Mais il a fait également appel à d'autres sources, et notamment pour l'épisode final du suicide du dernier défenseur, le jeune Barriato, qui n'est pas chez Morales, mais qu'il a trouvé ailleurs.
Donc, une pièce qui a un fondement historique, avec l'introduction d'un ou deux éléments obligés, comme une histoire d'amour, d'ailleurs faiblard. Est-ce que tu peux, à ce propos, nous résumer la pièce pour
alors, la résumer, sa structure? C'est une pièce en quatre journées, on appelle les actes des journées. Alors, la première journée, une place au cœur du camp romain, Scipion arrive, il prend le relais d'un certain nombre de consuls qui ont échoué à prendre Numance, et il décide de réformer l'armée romaine qui se complaît dans une inaction tout à fait déplorable. Donc il galvanise ses troupes, mais lorsque les Numantins envoient des ambassadeurs pour lui proposer la paix, il refuse et il annonce qu'il a un plan, et ce plan consiste à encercler la ville et à l'affamer. Et c'est sur ce projet, n'est-ce pas, que se termine la première journée. La deuxième nous montre les Numantins, nous transformons en camp Numantin, et nous voyons donc les chefs de Numance essayer de réfléchir à ce qu'ils pourront imaginée pour rompre le siège. Donc ils envisagent plusieurs hypothèses, et notamment une sortie en masse. Mais dans l'immédiat, ils préfèrent d'abord interroger les dieux. Et alors cet appel aux dieux fait écho à une autre intervention surnaturelle qui apparaît à la fin de la première journée, qui est l'apparition de l'Espagne, qui dialogue avec le fleuve Douro, qui est le fleuve qui encercle Nuance.
Une scène que nous entendrons.
Et que nous entendrons tout à l'heure. Et alors, le sacrifice aux dieux n'amène que des présages sinistres, et le dernier effort dans ce sens qui consiste à faire sortir de sa tombe un jeune homme mort de mort naturelle, n'est-ce pas ? Alors, un nécromant qui s'appelle Marquino se livre à toute espèce d'invocation en insultant Pluton, enfin les dieux de la mythologie gréco-latine. Et alors ce malheureux sort, et puis une voix mourante, comme il se doit, annonce une issue ambiguë, mais qui manifestement ne passe pas par la victoire du Numantin. Alors, au troisième acte, les Numantins cherchent de nouveau une solution. Ils proposent un combat singulier à Scipion, qui le refuse. Scipion ne veut pas exposer ses troupes. Et c'est à ce moment-là que nous assistons à ces scènes d'amour un peu faiblarde, comme disait mon ami Jean-Pierre, mais tout de même assez émouvante, parce que les protagonistes de cette intrigue sont d'abord deux jeunes gens, deux amis, qui vont d'ailleurs faire une sortie pour rapporter du pain et nourrir la jeune fiancée de l'un d'entre eux, et puis cette jeune fille. Et donc on assiste à un dialogue tout à fait sympathique, hein, avant que cette sortie n'ait lieu. Et puis alors, la dernière journée, eh bien, c'est le retour du camp romain de ce jeune homme, qui est le seul survivant des deux amis, l'autre a été massacré. Et alors il apporte le pain dont a besoin sa fille, sa fiancée, parce que les Numantins sont en train de mourir de faim. C'est un pain, bien entendu, imprégné de sang, et il meurt en lui donnant le pain, et elle-même refuse ce pain, et pendant ce temps, son frère meurt. Et c'est le début de ce qui va être le suicide des Numantins. Alors, ce suicide, on n'y assiste pas, on voit les prémices, mais on le découvre alors quand on revient dans le camp romain et qu'on voit Marius Jugurtha, enfin l'état-major de Scipion, monter et jeter un coup d'œil au-dessus du rempart, et puis bon, qu'est-ce qu'il voit ? Des cadavres, un spectacle absolument dantesque. Et alors, Scipion est contrarié parce qu'il lui faut au moins survivant pour qu'il puisse rentrer à Rome, c'est pas, avec le signe de son triomphe et recevoir le triomphe. Et il en reste un, c'est le jeune Bariato qui est en haut d'une tour, et Scipion lui dit mon enfant, je te fais grâce, viens, etc. Et l'autre dit, pas question, j'ai les clés de l'immense et je préfère me tuer plutôt que de te les donner. Donc il se jette du haut de la tour, et à ce moment-là, la renommée apparaît et célèbre ce qui sera le triomphe ultérieur de l'immense, ou du moins de son héritière, qui est l'Espagne, parce que c'est le sens de la prophétie que nous entendons à la fin de la première journée, mais enfin, nous y reviendrons tout à l'heure.
Merci beaucoup. Donc nous allons pouvoir écouter notre première lecture. Nous sommes dans la première journée. Notons en passant que c'est l'expression même que Claudel reprendra dans le Suivi 7, la pièce est divisée aussi en journée. Nous sommes à la première journée et nous allons avoir en quelque sorte l'intuition de tout ce qui va se passer, puisque c'est l'arrivée d'ambassadeurs numantins qui veulent proposer la paix à l'impitoyable Scipion, bien connu de tous les amateurs de version latine.
Ils sont deux. Ils sont deux.
Numance, dont je suis un citoyen, illustre général, m'envoie auprès de toi comme le plus vaillant capitaine de Rome qui ait jamais vu le jour et abrité la nuit, pour te prier, Seigneur, de nous tendre en ami la main, comme signe de la fin d'une guerre qui fut si opiniâtre, terrible et cruelle, et qui dans les deux camps tant de pertes a causé. Jamais elle n'aurait enfreint, dit-elle, les lois et privilèges du Sénat romain, si de tous les consuls l'intolérable tyrannie et les abus ne l'avaient lassée. Du fait de leurs durs et cruels arrêts, et des excès de leur cupidité, ils ont ployé sous un tel joug nos nuques, que nous avons dû nous en défaire avec eux. Et tout au long de ce temps qu'a duré entre nos deux parties cette lutte acharnée, jamais assurément nous n'avons rencontré aucun général avec qui traiter. Cependant, aujourd'hui que le sort a voulu conduire à si bon port notre navire, nous voulons amener les voiles de la guerre, disposé à venir à composition. Et ne va pas croire que la crainte nous pousse à te demander instamment la paix. Une longue expérience a prouvé la force valeureuse de Numance. Ta vertu et ton courage nous y incitent et nous montrent quel avantage nous aurons, plus grand que tous ceux que nous pourrons souhaiter, si nous t'avons pour Seigneur et ami. Telle est la raison de notre venue. Dis-nous, Seigneur, quel est ton bon plaisir ? Ce à quoi Scipion répond : Votre repentir se montre bien tard. Vos offres d'amitié ne me satisfont guère. Exercez à nouveau votre bras vigoureux, et je verrai ce que le mien fera. Car c'est lui que le destin a choisi pour nous donner la gloire et creuser votre tombe. Voilà tant d'années que dure votre insolence que demander la paix n'est pas la compenser. Continuez la guerre et perpétrez vos crimes. Qu'à nouveau paraissent les vaillants escadrons. Le second ambassadeur. Que d'illusion entraîne la fausse confiance. Prends bien garde, Seigneur, à ce que tu vas faire. Cette arrogance que tu nous témoignes va bientôt ranimer la valeur de nos bras. Puisque tu refuses la paix que nous venons de te demander de bonne foi en ce jour, aux yeux du ciel, notre juste cause n'en sera désormais que mieux reconnue. Avant que tu ne foules le sol de Numance, tu sauras jusqu'où va la fureur indignée de celui qui, alors qu'il est ton ennemi, veut être ton vassal et ton loyal ami. Autre chose à dire ? Non, mais à faire, puisque Seigneur, telle est ta volonté, que tu refuses l'amitié que nous t'offrons, au lieu de te montrer digne de qui tu es. Alors tu verras de quoi nous sommes capables, quand tu nous montreras ce que tu peux. Car discuter de paix est une chose, une autre d'enfoncer des escadrons armés. Tu dis la vérité. Ainsi, pour vous montrer que je sais aussi bien négocier qu'être en guerre, je ne veux pas vous avoir pour ami, et je ne le serai jamais de votre peuple. Et vous pouvez maintenant vous en retourner.
En somme, le décor est tragique. Mais est-ce qu'on peut employer le mot tragédie à vos Cervantes ?
Ah, c'est un vaste sujet, mais je crois que nous allons en parler un peu plus tard.
Bon, très bien. Donc, ces personnages pourraient dire ce que dit l'héroïne de Racine, je crois. Je prévois déjà tout ce qu'il faut prévoir. Mon unique espérance est dans mon désespoir. Donc, nous allons voir tout à coup un élément dont les spectateurs français ont peu l'habitude, qui est, mais au contraire, les amateurs d'épopée connaissent ce genre de procédé, c'est l'intervention d'allégories que nous verrons plusieurs fois rythmer la pièce et lui donner son sens historique, même dans l'avenir, et philosophique. Ces allégories, donc, est-ce que tu peux nous en dire un mot ?
Eh bien, à la fin de la première journée, on voit apparaître sur scène quatre allégories. Alors, il y a l'Espagne, il y a le fleuve Douro, enfin le Douer en espagnol, et ses affluents. Je crois qu'ils sont trois, en fait. Et alors, l'Espagne exprime son désarroi, son angoisse, à la lumière de ce que nous venons d'entendre, de ce qu'elle vient d'entendre également, et elle se tourne vers le fleuve qui va lui répondre. J'espère que je ne me trompe pas, c'est bien le fleuve qui répond à l'Espagne.
Oui, c'est ça. Voilà. Oui, puisque l'Espagne demande au fleuve de grossir ses eaux pour
le défendre. L'Espagne va expliquer ce qui va se passer, mais elle va l'expliquer avec suffisamment, disons, de circonlocution pour que on ne soit pas véritablement au fait de ce que sera le destin final de Numance. Pourquoi ? Parce que au-delà de ce qui va arriver à Numance et Numantin, eh bien, se dessine l'avenir de l'Espagne. Non plus l'Espagne qui est conquise par Rome, mais l'Espagne des Visigoths, l'Espagne des rois catholiques, l'Espagne de Charles Quint, l'Espagne de Philippe II. C'est-à-dire une Espagne qui devient à son tour la première puissance mondiale, qui prend en quelque sorte le relais de l'Empire romain et sa revanche par la même occasion. Et cette revanche se cristallise en quelque sorte autour d'un événement qui a frappé les esprits à l'époque, qui est le sac de Rome par les mercenaires de Charles Quint. Donc, renversement de situation, mais en même temps, l'Espagne, ou la monarchie hispanique, est à la fois celle qui venge les Numantins et celle qui hérite en quelque sorte de la mission providentielle de l'Empire romain. Et c'est sur cette prédiction, c'est ce qu'on appelle une vaticination post-eventum ou ab eventum, une prophétie d'autant plus aisée à prédire que nous savons ce qui va se passer. Donc c'est là-dessus que se termine l'action de la première journée.
Nous écoutons donc ce dialogue entre l'Espagne et le fleuve Douro.
Alors plus précisément, on entendra en fait la réponse du fleuve Douro à l'Espagne, qui juste avant, sous la forme d'une jeune fille couronnée de tours et portant à la main un château, l'Espagne a demandé précisément au fleuve Douro, vous me dites si je me trompe, mais en gros les Romains assiègent la ville sur à peu près trois côtés, et le quatrième côté est baigné par le fleuve, donc les Romains ne peuvent pas y accéder, et l'Espagne demande au fleuve de gonfler et de grossir son cours afin de rendre vraiment impraticable une avancée des Romains par ce côté. Il y a longtemps, et donc on entend la réponse du fleuve Douro, qui entre sur scène accompagné de trois autres jeunes garçons habillés pour figurer trois cours d'eau qui se jettent dans le Douro. Il y a longtemps, Espagne, mère chérie, que tes plaintes ont frappé mes oreilles. Si j'ai tardé jusqu'ici à paraître, c'est que je ne pouvais point y porter remède. Le jour fatal, triste et infortuné, ainsi qu'en ont disposé les étoiles, approche pour Numance. Et je crains fort qu'il n'y ait nul remède à sa douleur extrême. Avec Orvion, Minuessa et Ocytera, dont les ondes viennent se joindre aux miennes, de telle sorte j'ai gonflé mon sein qu'elles ont submergé mes rives coutumières. Mais sans craindre mon rapide courant, comme si je n'étais qu'un vulgaire ruisseau, puisses-tu, Espagne, ne l'avoir jamais vu, voici que sur mes eaux les Romains s'ingénient à construire des tours et des tranchées. Mais si le caprice du destin inflexible a décidé qu'allait venir la fin dernière de ton peuple numantin bien-aimé, puisqu'il est réduit à pareille extrémité, il lui reste pourtant une consolation. Les ombres de l'oubli jamais ne voileront le soleil éclatant de ses exploits, que les âges tiendront pour extraordinaires. Le féroce Romain a beau porter ses pas présentement sur ta fertile terre, t'opprimer ici et là tout trajet, par son ambition et par son arrogance, un temps viendra où ces Romains se verront opprimés par ceux qui sont aujourd'hui sous leur loi. De lointaines nations, je vois venir des peuples qui vivront dans la douceur de son sein, après avoir, exaucant ton désir, mis à leur tour les Romains sous leur joug. Ce seront les Goths, en magnifique équipage, qui, remplissant de leur renom le monde entier, viendront se retirer dans tes entrailles, tout en donnant un nouveau cours à leurs exploits. Un temps viendra où l'on verra brandi le glaive d'Espagne sur la nuque de Rome, et celle-ci ne devra son salut qu'à la bonté de son illustre chef. Et quand sera reconnu comme roi le seul vrai créateur de la terre et du ciel, celui qui se verra institué vice-roi de Dieu dans le monde entier, à tes souverains donnera le nom le mieux accordé selon lui à leur piété. Ils seront désormais appelés catholiques, en digne successeur des puissants Goths. Mais celui qui lèvera son bras le plus haut pour ton renom et la satisfaction de tous, donnant ainsi au nom glorieux de l'Hispanie la première des places ici-bas, sera un roi dont je vois en pensée les nobles intentions et les exploits. Maître du monde, il sera appelé Philippe le Second, à nul autre second. Sous son règne, son bienheureux empire réunira sous la même couronne tes royaumes jusque-là divisés. Le si fameux lambeau lusitanien, pendant quelque temps taillé dans la robe de l'illustre Castille, sera recousu pour retrouver la place qui fut sienne. Puisse cette annonce être un réconfort pour toi, en ce temps de malheur qui t'arrache des larmes, car voici que l'arrêt d'un sort cruel condamne Numance à un destin inéluctable.
C'est une tirade qui n'est pas très sympathique pour les Portugais.
Le lambeau lusitanien.
Effectivement, pendant 60 ans, le Portugal a été réuni à la couronne d'Espagne, puis il a redoré son indépendance par la suite. Ce qui est aussi intéressant, c'est que ces Goths, ces Visigoths, bon, qui symbolisent pour nous les invasions barbares, la destruction de l'Empire romain, là, retrouvent une force et une dignité qui s'explique parce que les Espagnols, qui sont à l'époque de Cervantes fiers de leurs ascendances chrétiennes, n'est-ce pas, qui n'ont pas été contaminés par du sang juif ou du sang mort, n'est-ce pas, se disent descendants des Goths, en particulier ceux qui habitent ou ceux qui sont originaires de la côte cantabrique, parce que là, n'est-ce pas, les Arabes ne sont jamais allés.
Très bien. Alors, maintenant, il va y avoir, on va voir les habitants de Numance, pas nous, mais le lecteur de la pièce, qui envisage les différentes solutions. En fait, il ne reste qu'une, pratiquement, tout amateur de western le sait, c'est de tenter une sortie.
Oui. Oui, mais justement, ce projet échoue. Pourquoi ? Parce que les femmes de Numance, Numantines, apprennent la chose et elles arrivent en disant « Mais que faites-vous ? Vous allez nous laisser seules, exposées à la fureur et à la lascivité, n'est-ce pas, des Romains vainqueurs. Ne faites pas cela. » Et à ce moment-là, les hommes, enfin, les guerriers se rendent à leur maison et donc décident de consulter les dieux. Et c'est à ce moment-là que se passe la scène du sacrifice, puis la scène de l'invocation par le nécromant de celui qu'on appelle le jeune homme triste. Enfin, c'est ce cadavre qui va apparaître et prédire le futur de Numance.
Oui, cette invocation aux dieux est saisissante. D'ailleurs, c'est la grande tradition épique antique qui est attestée aussi par les historiens. On prend toujours les auspices avant un combat. C'est une précaution que je vous ai prendre aussi avant de faire les courses. Donc, à partir de là, ça tourne mal puisque, justement, scène assez rare finalement dans l'histoire et dans les pièces, les auspices sont absolument défavorables et tout de suite de manière tragique. D'où ensuite cette idée extraordinaire finalement de faire revenir un mort des enfers pour le consulter. Est-ce que tu peux dire quelques mots là-dessus ?
Alors, donc cette invocation est placée dans la bouche de ce personnage qui s'appelle Martino, hein, qui est une sorte de nécromant, enfin une sorte de sorcier, hein, et qui est en même temps tout à fait solidaire, hein, du sort de ses concitoyens. Alors, il va se livrer à un certain nombre de pratiques préparatoires, et puis il va invoquer les dieux infernaux, en particulier Pluton. Et Pluton, manifestement, ne répond pas. Et alors, Martin commence à s'énerver, et puis se livre à une espèce de chantage assez extraordinaire, et il dit à Pluton, est-ce que tu ne veux pas quand même que j'en arrive à dire ce qui t'arrive, le fait que ton épouse te fait cocu 6 mois de l'année, avec un peu plus de tenue que je ne le dis. Et là, à ce moment-là, bon, on commence à entendre des bruits souterrains, hein, et d'ailleurs, ces invocations sont, je n'irai pas calquer, mais très fortement d'inspirer de situations semblables qu'on trouve dans la poésie latine, bon, et dans le théâtre latin, notamment chez Virgile, chez Ovide, chez Stas et chez Sénèque. Et là, à ce moment-là, pas, apparaît ce jeune homme, ce cadavre, pas, qui finit par prendre la parole et qui lui dit « Écoute, cesse d'essayer de me rendre à la vie, je la sens déjà qui me fuit à nouveau, mais puisque tu m'y obliges, je vais te dire ce qui va se passer. Bon, eh bien, il n'y aura ni vainqueur ni vaincu, mais Numance ne connaîtra pas le sort qu'elle espère. » Et puis ensuite, il redescend sous terre. Et alors, Martino, désespéré, dit « Je ne peux pas survivre à une telle annonce. » Et il se jette dans la fosse. Bah, il meurt à son tour. Et je me souviens avoir vu, je ne suis pas le seul ici, Jean-Louis Barrault dans le rôle de Martino. Et alors, le problème de Barrault, qui était tout jeune, c'était de ne pas rater sa descente, et là, il jetait un œil comme ça, un peu critique, la fosse, et on le voyait disparaître. C'est spectaculaire, on avait tellement peur.
Donc, nous allons écouter cette scène.
À la lecture, il y a moins de risques.
Oui.
Les marches qui sont derrière
nous. Si je m'approche trop dangereusement du bord, emporté par la fougue tragique. Vous me retenez.
Voilà. C'est une pièce très drôle, finalement.
Prête une oreille attentive à ma voix, cruel Pluton, qui a reçu du sort le soin de régner sur la région obscure, entourée de suppôts aux desseins malfaisants. Même si mes désirs à ton goût sont contraires, accomplis-les enfin et sans tarder, dans cette dure épreuve où je t'invoque, n'attends pas que je te contraigne davantage. Je veux que le corps ici enfermé retrouve l'âme qui lui donnait vie. Même si le farouche Charon la retient du côté opposé sur la rive noirâtre, et qu'elle est en peine et perdue au plus profond de la triple gueule du furieux Cerbère, qu'elle revienne à la lumière de ce monde, avant de retourner aux ténèbres du vôtre. Et puisqu'elle doit sortir, qu'elle sorte instruite de la fin de cette terrible guerre. En voilà maintenant. Qu'attends-tu ? Faut-il que je parle plus clairement ? Traître, vous ne levez pas cette pierre ? Suppôt félon, qu'est-ce qui vous arrête ? Pourquoi ne pas m'avoir encore donné les signes que vous faites à ma guise ce que je vous dis ? Allons, fourbe et misérable canaille, préparez-vous à souffrir rudement. Vous le savez, ma voix est assez forte pour redoubler votre rage et votre tourment. Dis-moi, perfide époux de cette épouse qui, 6 mois de l'année, s'en donne à cœur joie et te fait à coup sûr porter les cornes. Pourquoi restes-tu sourd à mes demandes ? Ce fer que j'ai trempé dans une eau claire et qui n'a pas touché le sol au mois de mai va frapper cette pierre et rendre clair et manifeste le pouvoir de cet essai. Avec l'eau claire de la fiole, il arrose le fer de sa lance avant d'en frapper la scène. En dessous, des fusées éclatent, ou bien on fait du bruit avec le baril de pierre.
Santesse.
Il semble cette fois que vous montrez, canaille, le cruel malaise qui vous saisit. Mais quelles sont ces rumeurs ? Eh bien, scélérat, vous arrivez enfin, mais contraints et forcés. Soulevez donc cette pierre, félon. Découvrez-moi le corps qui gît ici. Qu'est-ce là ? Vous tardez ? Où êtes-vous parti ? Vous n'exécutez pas sur le champ mes ordres ? Vous n'avez cure, mécréant, de mes menaces ? N'attendez plus de moi seulement des menaces. Venu du fleuve Styx, cette eau noire va payer promptement votre retard. Eau de la fatale lagune noire, puisée au plus obscur d'une sinistre nuit, par le pouvoir tout en toi réuni, que ne peut briser nul autre pouvoir, je commande, j'intime, j'enjoins et j'ordonne à l'importune bande diabolique et à qui le premier prit forme de serpent, de venir ici m'obéir et vite. Il arrose d'eau noire la sépulture qui s'ouvre. Ô garçon infortuné, sors et apparais, viens revoir le soleil clair et serein. Abandonne cette région où nul n'espère un seul jour de repos et de tranquillité. Fais-moi, tu le peux, complète relation de ce que tu as vu dans le sein de la terre. Le cadavre apparaît dans son linceul, portant un masque pâle de mort. Il émerge peu à peu et dès qu'il est sorti, il se laisse tomber sur la scène sans remuer main ni pied, jusqu'au moment fixé. Qu'est-ce là ? Tu ne veux pas me répondre ? Tu ne revis pas ? Reprends-tu goût à la mort ? Eh bien, je ferai se raviver ta douleur pour qu'enfin tu acceptes de parler. Il arrose le cadavre avec l'eau jaune, puis le frappe. À cet instant, le cadavre frémit et parle. Que cessent les excès de ta rigueur, Marquino ? Qu'il me suffise, infortuné, qu'il me suffise de ceux que dans l'obscure région j'endure, sans que toi tu ajoutes à mon malheur. Tu te trompes si tu crois que je suis content de reprendre à présent cette pénible vie, brève et déplorable, que je vis maintenant. Voici qu'à la hâte, déjà, elle m'abandonne. Tu me causes au contraire une atroce douleur, puisque de nouveau une mort inexorable de ma vie et de mon âme va triompher. Mon bourreau remportera double palme. Lui, avec d'autres de la troupe ténébreuse, parmi ceux qui se voient à ta merci, ils attendent tout autour, pleins de rage, que j'achève, Marquino, de te révéler la lamentable fin et le malheur horrible qui attendent Numance. Celle-ci périra des mains de ceux qui d'elle se trouvent être les plus proches. Les Romains ne remporteront pas la victoire sur elle, pas plus qu'elle n'obtiendra sur l'ennemi ni triomphe ni gloire, amis et ennemis ayant même vaillance. Ne crois pas non plus qu'on traitera de la paix, car leur cœur opposé n'abrite que la rage. Un glaive ami sera le meurtrier de Numance et lui donnera la vie. Et Marquino conclut, donc en regardant pour ne pas buter contre la scène, en tombant dans sa sépulture. Ô sinistre présage, présage funeste, Si tel est le destin du peuple bien-aimé, plutôt que de connaître une telle infortune, que ma vie prenne fin en cette sépulture. » Et il se précipite dans la sépulture.
Est-ce qu'il faut parler de baroque à propos de Cervantes et de l'intervention de scènes comme celle-ci?
Personnellement, non, je n'en suis pas partisan, ne serait-ce que pour des raisons historiques, parce que enfin, le baroque espagnol, il s'épanouit, je dirais, à partir de 1610, hein, avec Gongora, avec Calderón ensuite, avec Graciane, nous n'en sommes pas encore là. Alors, il y a toujours régulièrement un débat qui surgit entre spécialistes. Cervantes est-il un homme de la Renaissance, est-il un homme du baroque? Je crois que c'est un débat un peu vain, en tout cas qui n'a pas lieu d'être ici.
De toute façon, il est vrai que les scènes de divination sont des scènes très antiques. On a entendu une de didascalie à ce propos, très intéressante. Est-ce que tu souhaites ajouter un mot sur les didascalies? On l'a prévu d'en lire d'ailleurs.
Je peux vous donner un appel.
Oui, bien sûr.
Vous allez voir ce
oui, je vais vous lire simplement le texte. Oui. La didascalie qui précède en fait toute cette scène de. Enfin, la scène à la fois de sacrifice, de présage et puis l'invocation au dieu qu'on vient d'entendre, pour que vous ayez à peu près une idée des moyens de mise en scène tout simplement nécessaires à cette réalisation et qui font qu'on en fait simplement une lecture. Deux numantins entreront alors, vêtus comme d'anciens prêtres, tenant par les cornes entre eux deux un grand bélier, couronné d'oliviers ou de lierre et d'autres plantes, ainsi qu'un page avec un plat d'argent et une serviette sur l'épaule. Un autre avec un broc d'argent rempli d'eau, un autre avec un autre broc rempli de vin, un autre avec un autre plat contenant un peu d'encens, un autre page avec du feu et du bois, un autre qui dressera une table couverte d'un tapis où l'on disposera tout cela. Et dans cette scène paraîtront tous ceux qui joueront dans la pièce en costume de numantin, et ensuite deux prêtres, et l'un d'eux, lâchant le bélier, dira, etc.
On imagine ce qu'on ferait un metteur en scène contemporain comme Martha Leur, par exemple. Que faut-il penser, justement, de cette mise en scène?
Beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que, d'abord, il faut se rappeler ce que sont les conditions concrètes de la représentation au temps de Cervantes. Je vous disais tout à l'heure que nous sommes à une époque où l'on construit, on aménage des scènes permanentes dans ce qu'on appelle des corrales, c'est-à-dire des théâtres qui sont construits, qui sont aménagés entre deux corps de bâtiment, donc dans une cour. Et alors, cette cour, au fond de cette cour, n'est-ce pas, à des côtés, vous avez une scène de dimension assez limitée, avec non pas des coulisses, mais une ouverture centrale, et puis ce qu'on appelle une galerie. Alors, cette galerie peut avoir un étage, deux étages, et cette galerie se prête à la représentation d'une tour ou d'un rempart ou d'une maison, et donc elle va être largement exploitée dans une pièce comme l'immense, c'est pas l'apparition des allégories ou bien l'apparition des défenseurs de l'immense sur le rempart. Sous le plateau, il y a, communiquant par une trappe, une sorte de sous-sol, c'est pas, où se ménagent les effets sonores qui ont été décrits tout à l'heure. Alors, il ne faut pas s'exagérer, si vous voulez, le réalisme, entre guillemets, de ce type de mise en scène, parce que c'est un théâtre qui est fait très largement pour l'auditeur. D'ailleurs, en espagnol, on appelle les spectateurs des oyentes, des auditeurs, et on va entendre une comédia. Vamos a oír la comédia. Bon. Donc, c'est le dialogue dramatique qui contribue largement à situer l'action, à situer les scènes. Bon. On fait appel à, je dirais, une série de signes, comme par exemple le costume de scène des personnages. Il y a des accessoires, par exemple, au début de la pièce, Scipion monte sur un rocher, et il est précisé que ce rocher, c'est un élément mobile qu'on installe. On sait à peu près comment c'était fait. Vous aviez d'un côté du carton qui représentait le rocher, et de l'autre, un escalier à peu près aussi commode que celui-ci. Donc, que gravissait le personnage pour pouvoir s'adresser ensuite à la foule. Et alors, dans cet espace très, très conventionnel, Cervantes multiplie les indications scéniques avec un souci d'autant plus j'allais dire pathétique, que par la suite, il a éprouvé les plus grandes difficultés à être joué. Alors que l'homme et l'évêque a été beaucoup plus, je dirais pas indifférent, mais enfin, il considérait que c'était de la menuiserie. Il disait, bon, le théâtre, ça n'est pas simplement de la menuiserie, ce ne sont pas simplement des effets spectaculaires, c'est avant tout un texte et un jeu. Cervantes, contraint, je dirais, par les impératifs de la représentation, ou directement par l'impossibilité où il était de faire jouer ses pièces, se livre à une espèce de surenchère dans le domaine des didascalies. Enfin, à l'époque de Numance, il a été joué.
Oui, et alors, c'est aussi un texte, évidemment, et nous avons entendu de très beaux vers. C'est toi qui as traduit, et pas seulement édité, cette pièce. Est-ce que tu peux nous dire ainsi un mot du vers de Cervantes?
Alors, le vers de Cervantes pose toute espèce de questions. Pourquoi? Parce que Cervantes était le premier à dire qu'il n'était pas très doué pour les vers. Un prosateur, on le lui a dit aussi, en particulier les comédiens. Cela dit, il avait tout de même une certaine pratique du vers, il n'avait pas la facilité d'un localité, il avait une certaine pratique du vers. Alors ce qu'il y a dans cette pièce, c'est une combinaison de maîtres qui n'est pas encore celle que va mettre au point la Commedia Nueva, c'est-à-dire le théâtre de Lope de Vega. Alors, le théâtre espagnol, cycle d'or, au sens large du terme, est fondé sur la polymétrie, et il y a une alternance de maîtres longs, enfin, c'est ce qu'on appelle des vers d'arte mayor, des indécasyllabes, et de maîtres courts, qui sont des octosyllabes. Et alors, l'alternance de ces maîtres permet pas de varier les atmosphères et les tonalités. Alors dans le cas de Numance, il y a 75% en gros de mètres longs et 25% de mètres courts, ce qui donne évidemment au dialogue une certaine ampleur et aussi quelquefois une certaine monotonie. Et ça, les traducteurs ne se sont pas fait faute de le signaler, en particulier Jean Co quand il a adapté Numance pour Jean-Louis Barrault en 1965.
Donc, tout de même de très beaux vers et des changements frappants qu'on peut entendre à la vision ou à la lecture. Et nous revenons au siège de Dimanche. Nous sommes à la troisième journée. Les choses vont de plus en plus mal. Pourquoi? Est-ce que tu peux nous expliquer, avant que nous entendions le passage qui se situe à peu près au milieu ou à la fin de cette troisième journée?
Mais les choses vont de plus en plus mal parce que les Numantins sont en train de crever de faim. Et qu'il ne voit aucune issue possible. Et à ce moment-là, je dirais, l'angoisse, le désespoir s'empare des assiégés, hommes, femmes, enfants, et dans la masse, n'est-ce pas, des Numantins, émerge ce couple, n'est-ce pas, constitué par Marandro et Lira, et ce Marandro a un ami, auquel il va proposer, n'est-ce pas, de faire une sortie dans le corps en main pour rapporter le pain qui lui permettra de nourrir sa bien-aimée. Alors, c'est une sortie, je dirais, qui fait un peu penser à l'épisode de Nisus et Orial dans l'Énéide. Enfin, il y a manifestement une référence indirecte à cet épisode.
On va l'entendre. Bon, c'est...
Donc en fait, c'est un passage où c'est la description tout simplement du bûcher que les Numantins sont en train de dresser dans la ville pour être sûr de ne rien laisser à l'envahisseur romain une fois que la ville aura péri. Nos peines ne dureront pas longtemps. Voici venir la mort qui se prépare à emporter d'un vol rapide et prompt tout ce qui foule le sol de Numance. Je vois des prémices qui annoncent une fin rapide et amère à notre douce patrie, sans qu'ait besoin d'accomplir cette tâche l'ennemi, instrument de cette guerre. Nous-mêmes qui déjà trouvons fâcheuse et pénible cette vie qui nous accable, nous avons pris la décision irrévocable d'une mort cruelle, mais digne de louange. Sur la grande place se dresse déjà un bûcher aussi avide qu'ardent. Il lance, nourri de nos richesses, sa flamme jusqu'en haut de la quatrième sphère. Là-bas, dans une hâte désolée, une course timide vers la mort, tous se pressent pour attiser les flammes de leurs biens, comme une offrande sacrée. La perle rose de l'Orient, et l'or dont on peut tourner 1000 vases, et le rubis, et le plus pur des diamants, la pourpre recherchée, et le brocart, Tout a été lancé dans ces flammes brûlantes. Tout a été jeté dans le brasier ardent. Dépouilles dont les Romains auraient pu charger leurs tuniques et occuper leurs mains. Si notre malheur prenait fin de la sorte, nous pourrions l'endurer patiemment. Mais hélas, on va rendre, si je ne me trompe, l'arrêt cruel de notre mort à tous. Avant que des étrangers, la rigueur barbare, exerce sur nos gorges sa sévérité, nos mains vont être nos propres bourreaux. Mais ce ne seront pas les perfides Romains. On vient de décider que nulle femme, nul enfant, nul vieillard ne restera en vie, puisqu'enfin la cruelle faim intolérable est un plus féroce et rigoureux meurtrier. Entre une femme avec un enfant dans les bras et un autre à la main. Ô pénible et importune vie, terrible et funeste agonie. Mère, peut-être y aurait-il quelqu'un pour nous donner contre cela du pain ? Cela, ça désigne tous les objets et les meubles qu'eux-mêmes sont en train d'apporter au bûcher. Du pain, mon fils, ni cela, ni rien qui ressemble à de la nourriture. Alors il faut que je meure de cette faim cruelle et enragée ? Que t'aides-tu, mon pauvre enfant ? Ne sens-tu pas que, malgré moi, tu ne tires plus de mon maigre sein que du sang et non du lait ? Prends plutôt des lambeaux de ma chair et tâche de te rassasier, car mes bras faibles et fatigués ne peuvent plus te porter. Chers enfants de mon âme, de quoi pourrais-je vous nourrir quand c'est à peine s'il me reste mon propre sang à vous donner ? Ô faim terrible et féroce, comme tu achèves ma vie ! Ô guerre, venue seulement pour causer ma mort ! Mère, mère, je vais mourir. Hâtons-nous. Où allons-nous ? On dirait qu'en marchant ainsi, nous faisons durer notre faim. Mon fils, la place est proche, où nous allons jeter sans tarder, au milieu des vives flammes, la charge qui t'accable.
Comme vous pouvez le constater, Cervantes ne recule pas à l'occasion devant certains anachronismes. Tout à l'heure, nous avons vu que les Numantins révérait les dieux de la mythologie gréco-latine. Et là, nous voyons que Numance apparaît comme une ville riche, n'est-ce pas, où le luxe régnait jusqu'à ce qu'on décide de brûler tout ce qui s'y trouve. Mais alors, ce bûcher, c'est un bûcher décrit, ce n'est pas un bûcher mis en scène. Bon, il y a, je dirais, une certaine discrétion dans la représentation de ce suicide collectif, de même qu'on ne verra pas les Numantins mourir les uns après les autres dans des flots de sang, ce qui était assez la pratique du théâtre d'alors, n'est-ce pas, qui remplaçait la terreur par l'horreur et qui n'hésitait pas devant les flots de sang. Alors, ce n'est pas le cas ici.
Nous arrivons donc à la quatrième journée. Et après quelques péripéties, nous trouvons devant la scène où vont dialoguer deux allégories, celle de la guerre et celle de la maladie.
Il y en a trois en fait,
La fin.
Il y a aussi la fin.
Oui, c'est la fin.
C'est quand même un rôle important. Oui.
Entre une femme en armes, tenant un bouclier au bras gauche et une lance à la main, qui représente la guerre. Elle est suivie de la maladie qui s'appuie sur une béquille, la tête entourée d'un linge et portant un masque jaune, et de la faim. Celle-ci entrera en scène revêtue d'un collant figurant un squelette, avec par-dessus une robe de boucassin jaune et un masque jaune ou pâle. Ces deux personnages peuvent être joués par des hommes puisqu'ils portent des masques. Mais c'est la guerre qui prend la parole la première. Faim, maladie, qui êtes exécutrice de mes commandements sévères et terribles, dévoreuse de vie et de santé, sourdes aux prières, aux ordres et aux lois, puisque vous savez déjà mon dessein, il n'y a pas lieu que je vous rappelle à quel point je serais heureuse et satisfaite que vous exécutiez mes ordres sur le champ. La force irrésistible des lois du destin m'oblige à donner désormais mon aide à la sagacité de ces soldats romains. Pendant un temps, ils seront exaltés, et les Espagnols, quant à eux, humiliés. Mais un jour viendra où je changerai de camp, frapperai les puissants et aiderai les humbles. Moi qui suis la toute-puissante guerre, en vain détestée par tant de mères, je sais bien que sur tout le pourtour de la terre, le courage espagnol me portera dans le siècle heureux où régneront un Charles, un Philippe et un Ferdinand.
La chronologie n'est pas tout à fait respectée. La métrique imposée, c'est tort.
Et Maladie prend la parole à sa suite. Si la fin, notre ami combien cher, n'avait tenu à assumer la charge de se faire la féroce homicide de tous ceux qui demeurent dans Numance, c'est moi qui aurais accompli ta volonté. Et l'on aurait vu quel riche butin le Romain aurait aisément conquis, bien préférable à celui qui l'escompte. Mais dans toute l'étendue de sa puissance, elle a si bien réduit le peuple numantin qu'elle lui a barré les voies et le chemin par où il aurait pu espérer quelque issue. La lance inflexible de la fureur et l'influence du destin contraire le traitent avec tant d'âpre violence qu'il n'est besoin ni de faim ni de maladie. La rage et la fureur, tes créatures, ont su prendre dans leur cœur une telle place que chacun est assoiffé de son propre sang comme si c'était celui des légions romaines. La mort, le feu et la fureur, telle est leur paix. Ils ont trouvé leur contentement dans la mort, et pour priver les Romains du triomphe, ce sont eux qui se tuent de leurs propres mains.
C'est donc une terrible conclusion à laquelle nous ne dirigeons également pas.
Mais
et on va donc parler maintenant de cette fin FIL et comment échappe-t-on au fait au destin à la fin de cette pièce.
Bon, et bien justement, dans un premier temps, il semble que les décrets du destin vont s'accomplir, puisque on retourne dans le camp romain, les Romains constatent que le silence règne dans Numance, ils escaladent le rempart et ils découvrent un spectacle d'horreur. Scipion ne s'attendait pas à ce suicide collectif, il est en quelque sorte frustré, car il ne peut pas ramener à Rome un certain nombre de prisonniers, comme cela a été le cas en réalité, d'après les historiens du siège. Mais tout à coup apparaît en haut d'une tour un enfant qui s'appelle Bariato et qui tient les clés de la ville dans ses mains. Et alors Scipion s'adresse à lui et dit « Mon enfant, rends-toi, je te ferai grâce. » Et alors Bariato refuse et explique pourquoi il ne veut pas. Il a cédé à un mouvement de peur, de crainte, en se dérobant au suicide collectif, mais là, c'est pas le courage et la détermination ont repris le dessus, et donc il se jette du haut de la tour, je pense qu'il le fait dans les coulisses, hein, en emportant les clés. Et du coup, Scipion ne pourra pas recevoir le triomphe à Rome. Et c'est à ce moment-là qu'apparaît une dernière allégorie, la renommée, qui va nous signifier en quelque sorte ce qu'est le véritable destin de Numance, c'est le véritable dénouement de la pièce.
Est-ce qu'on verra encore ces allégories dans le théâtre espagnol du siècle d'or ?
Quelquefois, mais de façon beaucoup plus discrète. Enfin, je ne suis pas sous le contrôle de quelques spécialistes qui m'écoutent, et je ne pense pas que nous trouvions le même recours aux allégories.
Oui, parce qu'il y avait tout de même de longues pages qui ne sont pas dans la bouche des personnages, oui, mais dans celle de divinité, d'abstraction. En fait, des divinités, on n'en voit pas. Ce sont des abstractions plutôt, des allégories qui parlent.
C'est-à-dire qu'elles permettent d'échapper en quelque sorte à l'enfermement dans lequel le siège de Numance place les spectateurs.
Donc il y a juxtaposé le héros bien réel qui est Scipion dans les dernières pages que nous allons entendre maintenant, et l'allégorie qui est en somme, qui lui est étrangère, qu'il ne voit pas.
Il ne voit pas.
Qui est dans un autre monde, un peu comme dans l'enterrement du comte d'Orgaz, les deux niveaux, si on ose cette comparaison qui échappe à ma compétence, doublement d'ailleurs. À vous.
Donc qu'il s'agisse simplement de la dernière, enfin simplement de la dernière tirade de Scipion juste après le suicide du jeune Bariato. Oh, jamais je n'ai vu exploit si mémorable. Enfant dont le cœur est digne d'un vétéran. Par ton acte, tu as couvert de gloire immense, mais aussi l'Espagne entière. Toi, par cette chute, tu as porté bien haut ta renommée et as jeté bas mes victoires. Numance serait-elle encore en vie, j'en serais heureux à seule fin que tu vives. Toi seul, tu as remporté sur moi la victoire dans cette longue lutte, illustre et inouïe. Conserve donc, enfant, conserve le trophée et la gloire que le ciel te prépare, pour avoir par ta chute vaincu celui-là qui, voulant s'élever, retombe encore plus bas. Une trompette sonne et entre la renommée. Que mon illustre voix aille de peuple en peuple, et par ses doux et suaves accents, comble les âmes du désir ardent d'éterniser un fait si éclatant. Redressez, Romains, ce front abattu. Emportez d'ici ce corps qui a su vous arracher dans un âge si tendre le triomphe qui vous aurait tant honoré. Moi, la renommée, qui chante les louanges, j'aurai soin tant que les astres du firmament graviteront dans la sphère céleste, donnant force et vigueur à notre terre, de proclamer avec un accent véritable, par un juste dessein et dans un prompt envol, la valeur de Numance, unique et sans égale, de Bactre à Tulé, d'un pôle à l'autre pôle. Cet exploit jamais vu nous a donné la preuve de la valeur que dans les siècles à venir posséderont les fils de la puissante Espagne, dignes héritiers de pareils aïeux. Ni l'impitoyable faux de la mort, ni le temps à la course si légère, m'interdiront de chanter de Numance le bras vigoureux et le cœur constant. C'est dans Numance seul que je trouve tout ce qui mérite d'être chanté et ce qui peut donner matière au chant pour pouvoir occuper 1000 siècles. La force invaincue, la si haute valeur, digne qu'on les célèbre en prose comme en vers. Mais puisque c'est ce dont se charge ma mémoire, qu'une heureuse fin soit donnée à notre histoire.
Donc tout à coup, on voit apparaître cette idée que le dénouement est heureux.
Oui,
tout le monde est mort, mais c'est une heureuse fin. En plus, c'est une caricature de propagande sans nuance.
Sans nuance.
C'est la disparition d'une lettre. Oui. Donc, est-ce que finalement, tu considères que c'est un chef-d'œuvre, c'est une très belle pièce c'est une première question que je vais te poser avant le.
Question délicate. J'en suis convaincu quand je la lis, surtout quand je lis ma traduction. Quand je l'ai vu représenter deux fois, et chaque fois je suis resté un peu sur ma faim. Alors, il est facile évidemment d'imputer cette impression au metteur en scène. Mais tout de même, je crois que monter aujourd'hui Numance n'est pas à la portée du premier venu. Peut-être qu'une représentation en plein air, comme c'était fait en Espagne il y a quelques années, dans un décor de cirque romain, par exemple, donnerait des résultats plus spectaculaires.
Justement, on pourrait peut-être dire un mot des mises en scène on a évoqué Barou tout à l'heure.
Effectivement. Alors, la redécouverte de Numance, je vous le disais, se fait à la fin du XVIIIe siècle. Au XIXe, on la lit, et on la lit avec passion, parmi les admirateurs de Numance, nous trouvons Goethe, nous trouvons Schiller, nous trouvons Schelley. Mais il faut attendre le XXe siècle, et plus particulièrement la guerre civile espagnole, pour voir deux mises en scène particulièrement significatives, une en France, celle de Barrault, et l'autre en Espagne, celle du poète Rafael Alberti. Alors Barrault monte Numance en avril ou en mai 1937 au Théâtre Antoine, au moment où le siège de Madrid par les troupes franquistes est en train de se dessiner, et il ne part pas, je crois, du texte de Cervantes, mais plutôt d'une traduction très libre qui avait été faite par Alphonse Royer au milieu du XIXe siècle, mais il imagine une mise en scène audacieuse, et cette mise en scène connaît un très grand succès. Elle passionne un certain nombre de spectateurs qui ne sont pas n'importe qui, puisque vous avez Claudel, vous avez Robert Desnos, vous avez Malraux. Bon, il y a une voix discordante qui est celle de Sartre, mais Sartre n'est pas encore célèbre. Hein. Sartre écrit à Simone de Beauvoir, qui est tout à fait déçu. Bon. Et vous avez un admirateur tout à fait intéressant, qui est Michel Léris, je ne sais pas si je peux lire la lettre qu'il a écrite à Jean-Louis Barrault au lendemain de la présentation. Il dit ceci. « Mon cher Barrault, il ne m'était pas possible jeudi soir, ne voulant pas vous importuner après l'immense effort que vous veniez de fournir, de vous dire autrement qu'en deux mots combien j'ai trouvé votre spectacle admirable. Ce qui m'a frappé surtout, laissant de côté la beauté des groupes en mouvement, l'efficacité du rythme dans le déroulement de l'ensemble, qui vous engraine comme si on écoutait du Bach, c'est la déconcertante aisance avec laquelle le surnaturel a pris pied sur la scène, jusqu'à paraître naturel, alors que d'ordinaire, le merveilleux de théâtre n'est que tour d'escamoteur et miracle en plaqué. Il est prodigieux, j'espère qu'on vous l'a déjà dit, que par exemple, vous ayez pu donner vie à un fleuve au point qu'il paraisse tout simple de l'entendre parler. Je cite cela alors que je pourrais citer tant d'autres choses. Par exemple, la fantastique scène de nécromancie où les effusions si humaines de deux amis qui pleurent et rient pour prendre deux extrêmes, parce qu'il me semble que c'est là que se manifeste le plus clairement ce que vous apportez. Grâce à vous, le mot « acteur » a repris tout son sens. Il ne s'agit plus d'une marionnette plus ou moins pittoresque ou d'un plus ou moins habile imitateur, mais de quelqu'un qui, à proprement parler, agit, c'est-à-dire anime les choses, donne un corps à la mythologie. Je crois qu'il y a là un phénomène assez peu explicable de présence qui est le secret de toute la poésie. » Et bien, un dernier paragraphe. Ouais. Si je voulais vous exprimer tout ce que j'ai ressenti, il me faudrait beaucoup plus que ces quelques lignes. Mais je tiens seulement à vous répéter que je regarde ce que vous avez fait, Masson et vous, car André Masson était l'auteur des décors, comme une œuvre très exceptionnelle et réellement très grande, en même temps que vous assurez de ma plus sincère et cordiale sympathie.
Très beau texte.
Très beau texte.
Vous savez, je l'ai lu. Et plus récemment, après Barrault, qui a donc repris la pièce.
Robert Cantarella, qui l'a monté, je crois, en 92. Moi, je vais être très convaincu par cette mise en scène qui est un peu bizarre, peut-être baroque. Enfin, les acteurs jouaient sur une espèce de surface remplie d'eau. Et alors, un certain nombre d'éléments du décor se déplaçaient au moyen de rails. Hein, et puis, alors, on voyait l'Espagne en train de se gratter. Parce qu'elle éprouvait évidemment une certaine gêne en écoutant le sort qui lui était annoncé. Bon, alors, tout ça ne m'a pas vraiment emballé. Ce qui est intéressant, en revanche, c'est la mise en scène d'Alberti à Madrid pendant le siège de Madrid. Alors, ce qu'a fait Alberti, c'est un contemporain, un ami de Lorca. Il a actualisé la pièce, c'est-à-dire que les Romains sont devenus des Italiens et des fascistes. Hein, puisque c'était l'époque où Mussolini envoyait un certain nombre de troupes pour aider Franco. Et à ce moment-là, c'est pas le triomphe posthume de l'immense, la renommée apparaissait et annonçait, n'est-ce pas, la victoire de l'Espagne républicaine, la défaite du fascisme et la renommée qui est une sorte de paysanne, n'est-ce pas, qui apparaissait sur un fond de ciel d'aurore. Bon. Alors, évidemment, ce dénouement n'était plus d'actualité quelques années plus tard, et Alberti a refait une mise en scène de l'humour, cette fois à Montevideo, en 1943, mais dans un contexte un peu différent. Voilà, on peut dire.
Très bien. Donc, il ne reste qu'à remercier Jean, à remercier Martin, en rappelant donc que vous pouvez aller l'applaudir au déchargeur dans la pièce de Jean-Luc Lagarce, Les règles du savoir-vivre. Et notre dernière rencontre de la saison sera consacrée à la tour de Nesle de Dumas. Merci d'être venu.